Musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, je vous dis pas votre magazine d'information locale.
Je suis en compagnie de Sandrine Desmarais, guide au service patrimoine à la mairie Lille-Dieu au Vieux-Château. Bonjour Sandrine.
Bonjour Roland.
Ça fait combien d'années que tu présentes cette visite du Vieux-Château ?
3 ans.
Et peux-tu nous en dire plus alors ?
Eh bien, dans un premier temps, on campe un peu le décor historique du château. C'est un château qui a été construit au Moyen-Âge. À l'époque, la France était divisée en seigneuries. Et Lille-Dieu appartenait à un seigneur qui était sur le continent, à la Garnache, en Vendée. Il s'appelait, c'était une suzeraine, c'était Jeanne de Belleville. Et en 1328, elle va se marier avec un grand seigneur de l'Ouest, Olivier IV de Clisson. Et comme Lille-Dieu était proie de nombreux pillages, comme de nombreuses îles depuis la nuit des temps, les îlets réclamaient depuis longtemps quelque chose pour défendre leur territoire. Et puis, quand se sont mariés Jeanne et Olivier, il y avait la menace anglaise qui rôdait dans les parages. Et ils ont bien fait de construire ce château parce que la guerre de 100 ans a éclaté. Alors, la suite de la visite, on raconte que ce château, en fait, il a survécu à plusieurs assauts, sauf quand même, il faut savoir qu'en 1355, il y a un corsaire anglais qui est venu attaquer le château. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce que ces soldats étaient tellement nombreux, ou si ce qu'il y a une perte de siège, est-ce qu'il y a eu des transactions financières. Eh bien, sache Roland, moi je l'ai appris il y a 3 ans, que l'île est restée anglaise pendant 37 ans. Et si on va au petit village de la Meule, il y a une rue qui commémore cet événement, c'est la rue des Hommes Rouges, parce qu'à l'époque, les îlets s'en souviennent encore, les soldats portaient des tuniques rouges. Alors, ensuite, le château, on voit quand on arrive une sorte de vestige en pierre, et c'est les restes d'un bastion en forme de demi-étoile. Et ça date du XVIe siècle. Et une fois que ce bastion a été construit, donc on pouvait mettre plus de soldats et de population quadruple, eh bien le château, il a toujours résisté. Mais fin XVIIe, eh bien ce château a été construit sur la mer, parce qu'on savait qu'à l'époque, les bateaux ne pouvaient pas accoster. Et puis, à partir du XVIIe, l'artillerie a évolué. Donc, les bateaux devenaient plus maniables et les canons plus puissants. Alors, la suzeraine de l'époque, une autre Jeanne, figure-toi, Jeanne Pélagie de Rieux, a décidé de construire une ceinture de 11 petits fortins sur la côte est, directement là où l'ennemi débarque. Du coup, le gouverneur, parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que l'île appartenait à un seigneur, mais il n'allait pas faire des allers-retours tous les jours pour voir ce qui se passait sur son bout de caillou. Donc, il y a dépêché un gouverneur. Et au Moyen-Âge, habitait ici le gouverneur avec une garnison de 30 soldats à peu près. Moitié 17e, le gouverneur de l'époque, il avait froid et tout ça, il s'est dit « Oh non, il fait trop froid, j'attrape des rhumes et tout », il s'est fait construire, elle existe toujours, la maison du gouverneur au pied de l'église de Saint-Sauveur, dans le bourg, et les soldats sont partis investir les petits fortins de la côte est. Donc le château, il est devenu vide, obsolète. Mais il y avait toujours la menace anglaise qui rôdait. Et le roi de l'époque, Louis XIV, a décidé de démanteler toutes les vieilles forteresses maritimes qui dataient de l'âge féodal sur la côte atlantique entre Nantes et Bordeaux, et l'île-Dieu en fait partie. Et donc ce château a été détruit sous ordre royal fin 17e. Donc il faut imaginer 2 ou 3 bateaux, on ne sait pas trop, de la marine royale depuis la baie des Sabias, qui ont braqué leurs canons sur le château et qui l'ont explosé. Donc ce n'est pas le petit Nicolas qui a fait exploser le château.
Et au jour d'aujourd'hui, il y a des travaux de restauration ?
Alors les travaux de restauration, alors au début, fin des années 60-70, il y avait Maurice Essol et j'ai cru comprendre Jean-François Henry qui ont organisé des chantiers de bénévoles avec des étudiants en histoire, en archéo. Et tu vois, dans la cour où nous sommes, il y avait jusqu'à 1,50 m de déblais, donc il fallait tout enlever. Et puis petit à petit, il y a eu des fonds publics qui ont été levés. Et puis là, déjà, on a refait la passerelle, on a sécurisé toutes les ouvertures, parce que tu sais qu'avant le château, tout le monde pouvait venir. Hein.
C'est vraiment très libre.
C'était très libre, mais c'était surtout très dangereux. Donc la municipalité, à un moment, elle a dit stop. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont râlé, que ce soit des insulaires ou des estivants, parce qu'ils adoraient y faire la fête, mais c'était super dangereux. Donc on a fermé le château. Et puis on a commencé à restaurer la passerelle, sécuriser les ouvertures, il y a la tour sud, le fameux chemin de ronde, et on a refait l'extérieur de la tour nord-est. Et puis dès qu'on a un petit peu d'argent, c'est le consacrer à la restauration du bastion, en fait. Voilà.
Et la restauration du bastion, on ne sait pas quand il sera restauré.
Ben non, on attend que les noisettes elles tombent du ciel. Alors dernièrement, c'est l'église de Saint-Sauveur qui a bénéficié d'un programme de restauration. Et puis on attend de voir dès qu'il y a un peu d'argent. Ce sera donc parce qu'il y a encore deux bastions qui se reposent sous la végétation. J'en profite pour dire que ce ne sont pas des endroits qu'il ne faut pas les piétiner, il ne faut pas faire de vélo et dessus, parce qu'il y a une végétation très fragile qui s'y développe et les pierres sont très sensibles au déchaussement. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter en fait tous ces casse-pattes là, tous ces fils. C'est pas pour nous embêter, mais ce qu'on aime à rappeler au service patrimoine, c'est qu'on n'a que deux pieds, mais nous sommes 5000 insulaires, il y a près de 30 000 visiteurs par an, donc on peut faire beaucoup de dégâts sans le savoir.
Et les visites cette année 2016 ont été nombreuses et sont nombreuses ?
Oui, il y a du monde qui vient. Et puis depuis deux ans, c'est la deuxième année où justement entre 13h30 et 14h45, on a instauré une visite libre. Et donc contre 1,50€, chacun est libre de déambuler à l'intérieur du château. Alors voilà, les guides, on est deux quand même. S'ils ont des questions, les personnes nous posent la question. Et ça a beaucoup de succès en fait. Les gens aiment bien.
Et quelles questions reviennent le plus souvent ?
Ah, quelles questions reviennent le plus souvent ? Pourquoi ce château a été détruit ? Combien de temps on a mis pour le faire ? Qui habitait dans ce château ?
D'ailleurs, combien de temps de construction ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors, il n'y a pas d'écrit de documentation officielle, mais moi, on m'a dit que ça aurait pris entre 10 et 15 ans. Et j'ai même appris en faisant la visite qu'il y avait des maçons du continent qui sont venus aider les insulaires parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour construire le château.
Ce fut un travail énorme.
Ah oui, c'était un travail énorme. Je me demande combien d'hommes il a pu faire pour voir ce travail. Quand on voit que ça tient encore aujourd'hui, c'est impressionnant, oui.
Et peux-tu nous décrire l'endroit où nous sommes actuellement ?
Ouais. Alors là, on est dans la partie inférieure du château, donc il y a une cour. Et puis donc, sur notre gauche, on a le fameux logis du gouverneur. C'est là où habitait le gouverneur de l'île-Dieu. On est assis sur la cheminée de la cuisine. On pouvait faire rôtir au moins deux moutons.
On est même assis dans la cheminée, pratiquement.
Dans la cheminée, attention. À droite, on a une boulangerie avec un four à pain remarquablement conservé. Et puis, en face de nous avons la forge. C'est là où on réparait les armes, entre autres. Et la cour, alors il faut imaginer qu'il y avait un toit au-dessus de chaque chemin de ronde et de chaque logis. Et la cour était à l'air libre. Et il faut imaginer aussi qu'à l'époque, à l'intérieur, les murs étaient recouverts de chaux. Parce que ça conférait plus de luminosité et ça permettait d'isoler. Alors, même encore aujourd'hui, dans la tradition de l'île, tous les étés, on chaule les maisons pour se préparer contre les intempéries. Et puis donc après, nous avons des tours de défense qui sont distribuées par des escaliers en vis très jolis. Et dans chaque tour de défense, on a les canonnières. Et là, on se rend compte qu'il devait faire un froid de canard pas possible à l'époque, parce que, comme je dis, Saint-Gobain et EDF n'existaient pas.
Et non.
Et donc, il y avait des cheminées dans chaque pièce, et puis le fameux chemin de ronde. Et en face de nous, on voit la tour nord-est, où il y avait une guérite. On voyait arriver l'ennemi de la côte est. Et cette tour avait une deuxième fonction en temps de paix, c'est ce qu'on appelait un porte-fanal, c'était un ancêtre de phare. Beaucoup de forteresses militaires du littoral ont servi d'ancêtre de phare avant que les phares viennent éclairer nos côtes à partir de la moitié du 19e siècle.
Merci Sandrine pour cette visite, à très bientôt.
C'était sympa de te recevoir Roland, puis à bientôt, au revoir.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, direction Le Grand Phare sur l'île Dieu avec la guide de Pauline Geoffrey pour le découvrir plus en détail. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.